Le temps. Bonjour, bienvenue dans Babylone à la croisée des savoirs et des cultures. Qu'est-ce que l'obscurantisme? Au lendemain du congrès pour un islam spirituel et responsable qui s'est tenu ce week-end à Genève, c'est la question qui va nous occuper durant cette heure. En effet, qu'il s'agisse d'attentats, de fondamentalisme, intégrisme de tous bords, de colonisation des terres au nom de Dieu ou encore de meurtres inspirés par le djihad, l'actualité se charge malheureusement de nous rappeler chaque jour ou presque à quel point l'obscurantisme reste présent. Alors, la faute à qui ? Aux religions, à la mondialisation et à son corollaire, le repli sur soi ou encore à l'ignorance. Autour de la table de Babylone pour en débattre durant la première partie de l'émission, deux hommes de foi, deux hommes engagés dans le dialogue interreligieux. L'organisateur tout d'abord de ce congrès pour un islam spirituel et responsable, Cheikh Khaled Bentounes.
Bonjour.
Bonjour. Et puis le grand rabbin Marc Raphaël Gedge, membre du comité d'honneur du congrès. Bonjour à vous.
Bonjour.
Également. Alors merci d'avoir répondu à l'invitation que vous a lancée Jean-Marc Falcombello. En deux mots, puisqu'on aura tout loisir de développer, quel est pour chacun de vous le visage actuel de l'obscurantisme, Cheikh Khaled Bentounes?
Alors déjà, si on va à la racine du mot « obscur », ça nous amène à l'image qui nous vient tout de suite à l'idée, c'est des ténèbres.
Quelqu'un
qui s'éloigne de la lumière, de l'intelligence, de la raison et de la foi qui habite le cœur de chaque être humain.
Grand rabbin Marc Raphaël Gedge.
Moi j'ai envie de dire quand la lumière devient ténèbre, c'est-à-dire quand la pureté devient dangereuse.
Quand la pureté devient dangereuse. Après ce regard croisé, nous débusquerons l'obscurantisme là où peut-être on ne le cherche pas, notamment dans l'esprit des Lumières. C'est la thèse provocatrice que défend Erwan Sommerer, co-directeur de l'ouvrage collectif L'obscurantisme, formes anciennes et nouvelles, d'une notion controversée. Philippe Zibung l'a rencontré. Pour vous ouvrir les portes de Babylone, Jean-Daniel Mottet est en régie à Lausanne, Louisa Nazarieff à Genève, Nicole Duparc au micro, et c'est David Golan qui signe la carte sonore.
Est-ce que la parole qu'on me présente, la phrase qu'on me présente, est inspirée par le seul bien ou est-ce qu'il y a quelque chose derrière? Qu'est-ce que cachent les mots? Quels intérêts éventuellement se dissimulent derrière tel précepte ou telle déclaration?
Il se trouve que dans notre pays, malheureusement, on accepte des nouvelles formes de violence qui sont liées directement à l'obscurantisme, que sont par exemple les mariages forcés, la polygamie, l'excision. Et en fait, nous, on est là en train d'expliquer qu'il ne faut pas l'accepter justement au nom justement d'une tolérance à outrance sur la différence culturelle.
Qu'est-ce que cachent les mots ?
C'est à vous les premiers de faire gagner l'intelligence contre l'obscurantisme, de faire gagner la tolérance contre l'intransigeance.
Qu'est-ce que cachent les mots ?
Qu'est-ce que cachent les mots ? C'est la question mérite d'être posée, bien sûr, dans le sillage de cette carte sonore qui nous rappelle, si besoin, que nous ne sommes toujours pas libres de l'obscurantisme. Pourtant, et c'est cela que nous désirons éclairer aujourd'hui, de nécessaires initiatives voient le jour, comme ce congrès pour un islam spirituel et responsable qui s'est donc tenu ce week-end à Genève, sous l'égide de la confrérie soufie Alaouia, que vous dirigez, Cheikh Khaled Bentounes, et de la fondation Racine et source que vous avez fondée en 2001 et dont vous êtes le directeur aujourd'hui, grand rabbin Marc Raphaël Gedge. Alors vous n'êtes pas co-organisateur, je vous ai vu hocher la tête du congrès, mais membre du comité d'honneur de ce congrès. Jean-Marc Falcombello va vous soumettre à la question, mais pour commencer j'ai envie de vous entendre tout simplement sur l'actualité de ce congrès. Pourquoi maintenant? Y avait-il une raison particulière, Cheikh Khaled Bentounes?
Il y a toujours une raison quand il s'agit de rassembler les hommes, les femmes et surtout des consciences. Nous sommes dans un monde bousculé, un monde qui, tous les jours, nous étonne et nous surprend par son actualité et surtout par son actualité violente. Nous sommes au début de ce 21e siècle, dont beaucoup pensaient quand même que nous n'allons pas reproduire les mêmes schémas, les mêmes erreurs que le XXe siècle. Le XXe siècle a débuté avec deux grandes guerres, la première et la deuxième guerre mondiale, qui a été une catastrophe pour l'humanité. Mmh. Et voilà que nous repartons à zéro pour ce nouveau siècle, avec des armes encore beaucoup plus destructrices, et avec une humanité qui, chaque jour, risque peut-être d'aller vers, je dirais pas son extermination, mais vers quelque chose encore d'inconnu.
Mmh. Donc vous répondez là très largement sur les raisons de ce congrès qui s'est tenu ce week-end à Genève. Grand Rabbin Marc-Raphaël Guedj.
Oui, j'ai assisté à plusieurs parties du congrès et je connais le cheikh Khaled Meltounes. On a collaboré dans le cadre notamment des rencontres rabbins et imams à Bruxelles, Séville et Paris. Et ce qui me touche profondément et qui rejoint profondément ma tradition ou la façon dont je vois, je regarde ma tradition, c'est cette insistance sur la spiritualité qui part d'un terroir ou de racines singulières et qui s'ouvre à une dimension universelle, au niveau du soufisme. Et je crois que c'est fondamental. Parce que les identités sont dangereuses, pour paraphraser Amin Mahalouf, lorsque on reste à la superficie de nos traditions. Quand on arrive aux racines spirituelles de nos traditions, on s'ouvre à l'universel. Mmh. Et je crois que le soufisme...
C'est là où est la source.
Voilà. Et je crois que le soufisme apporte un éclairage important, et pour l'islam, et pour la modernité, justement à partir de cette quête spirituelle intérieure. Et quand j'entends, ou quand j'ai participé au concert où j'ai vibré, quand j'entends les chants soufis, quand je vois les danses soufis, quand j'écoute des paroles soufis, je reviens à ma tradition chassidique ou kabbaliste, et en fin de compte, je m'aperçois qu'on est frères, non seulement en humanité, mais en spiritualité. Mmh. Et je dis souvent que je suis plus proche d'un spirituel, qu'il soit musulman ou chrétien, que d'un rabbin orthodoxe superficiel, et j'arrive à communier spirituellement beaucoup plus profondément. Mmh. Et je crois que ce congrès est actuel dans la mesure où il lutte contre ces identités monolithiques, fermées et dangereuses qui traversent nos religions et nos traditions.
Alors, frère en spiritualité, Jean-Marc Valcombello, l'expression est belle. Et lorsque vous m'aviez dit que vous vouliez inviter nos deux invités, vous insistiez sur le fait que tous deux sont des responsables religieux, donc des hommes d'influence impliqués dans un dialogue.
Absolument, et je pense que d'une certaine manière, ils peuvent ouvrir des voies. Vous les ouvrez d'ailleurs, ces voies, parce que vous êtes tous deux très impliqués dans le dialogue interreligieux. Et là, c'est vrai qu'il y a un instant, quand je vous entends, grand Marc-Raphaël Guedj, je vous entends, on pourrait presque dire en une formule, retour au mysticisme. Je le dis aussi à dessein, parce que je sais que vous avez donné des conférences qui portent ce thème. Et bien sûr, là, on est tout de suite au cœur aussi du soufisme. Et c'est intéressant parce que ce retour au mysticisme peut-être interroge, vous l'avez dit, le cœur des traditions, mais peut-être aussi la profondeur du débat théologique. Parce qu'on est bien d'accord que sinon, on peut être, quand on est dans le dialogue interreligieux, dans la façade aimable et agréable. Nous sommes tous frères. Mais comment devient-on clair avec sa tradition? C'est-à-dire comment revenons-nous aux sources d'une tradition pour l'expurger, on pourrait dire, des sources ou des racines éventuelles de l'obscurantisme. Et il me semble que ce serait intéressant de vous entendre sur ce travail en profondeur. Peut-être vous, Cheikh Khaled Bentounes.
Oui, parce que
mysticisme comme profondeur.
Oui, mais à quoi nous invite cette spiritualité ou ce que vous appelez mysticisme? Il nous invite à faire un parcours. Mais au lieu que ce parcours soit à l'extérieur de nous-mêmes, c'est-à-dire comprendre et lire le monde à l'extérieur de nous-mêmes, c'est de dire à partir de soi, c'est-à-dire revenir au plus profond de ce que nous sommes. Et avant d'être à la fois des religieux, croyants ou incroyants, juifs, chrétiens ou musulmans ou bouddhistes ou autres, on est d'abord, quand on est de ce monde, on est avec cette empreinte qui est l'humanité.
Mais alors, comment on fait à ce moment-là avec sa tradition? Parce qu'en même temps, on appartient avec des choses qui nous définissent.
Tout à fait, mais c'est revenir à la source. Dans la tradition musulmane soufie, on définit l'être d'abord par sa fitra, cette notion avec laquelle chaque enfant vient dans le monde, chaque bébé vient dans le monde, c'est sa nature originelle. Et le reste vient. par-dessus, la culture, la religion, va venir par-dessus. Et faire le parcours inverse, c'est retrouver en nous ce lien qui lie l'humanité tout entière. C'est-à-dire, c'est comme si, dans un collier, il y a des perles, chacune différente, mais il y a un fil. Et très peu de gens vont regarder le fil qui lie le tout. Et c'est revenir à ce lien qui réunit l'humain en nous, et c'est à cela que ce voyage auquel nous invite la mystique ou la spiritualité. C'est à revenir à ce lien profond qui lie à la fois les humains, les êtres humains, mais la création. C'est le principe de l'unicité.
Est-ce qu'on peut dire que cette nature est areligieuse, cette nature fondamentale, par exemple, grand rabbin, sur cette question? Parce que finalement, c'est une question fondamentale. Qu'est-ce qui nous unit?
J'ai envie de citer une phrase de Rosenzweig qui disait « Dieu a créé le monde, il n'a pas créé la religion ». Et une autre phrase du roi David dans les psaumes, il disait « Ahat diber Elohim shtaim zushamati », c'est-à-dire que la parole de Dieu est une, mais l'écoute est plurielle. C'est-à-dire que c'est clair qu'il y a une révélation à travers la création. Mais cette révélation n'est pas monolithique. Et on l'entend à travers nos subjectivités. Et le problème, c'est que la tradition musulmane, c'est une forme d'écoute de la révélation. La tradition juive, c'est une autre forme d'écoute de la révélation. Mais la révélation est une. Et le problème est de savoir comment ces écoutes vont se parler pour revenir à cette unité de la révélation. Alors peut-être que cette unité de la révélation, elle est areligieuse en ce sens qu'elle transcende les religions.
Est-ce qu'on est là, par exemple, dans une perspective qu'on peut retracer dans l'histoire avec l'unité transcendante des religions? Je pense, d'ailleurs c'était un adepte du soufisme, Fridtjof Schwann, par exemple. Est-ce qu'il y a quelque chose là, dans cette volonté, effectivement, d'œuvrer, peut-être à travers le dialogue interreligieux, à l'unité transcendante des religions?
Alors, c'est d'abord René Guénon, c'est pas Fridtjof Schwann qui est à l'origine. C'est René Guénon qui a été le grand théoricien de...
Je pensais au livre écrit par Fridtjof Schwann sur la question.
Tout à fait, mais à l'origine, lui-même a appris cette notion, c'est chez René Guénon. Mais qu'est-ce que c'est que l'unité transcendantale des religions? Mais elle n'est pas seulement pour les religions. Parce que quand on va aux racines des religions elles-mêmes, que ça soit le judaïsme, le christianisme, l'islam ou le bouddhisme, ils sont d'abord nés pas comme des religions et des institutions. Moïse a rencontré Dieu au buisson ardent. Le judaïsme n'est pas né dans une synagogue.
Vous voulez dire, c'est d'abord une expérience.
Bien sûr. Oui. Ainsi que
le
christianisme.
Ça, c'est fondamental, bien sûr.
Et l'islam n'est pas né dans une mosquée. D'abord, c'est une expérience, la rencontre, cette rencontre ineffable entre la créature et ce divin. D'abord, c'est un choc, je dirais, qui va susciter en nous ce retour à l'ineffable, à cette rencontre avec cette révélation. Elle n'est pas dans la rationalité des choses. Elle est dans quelque chose d'autre qu'on peut rappeler l'irrationnel ou qu'on peut appeler. Mais elle est dans cette relation, dans cette verticalité qui appelle tout être. Et c'est là où cette transcendance et cette immanence, parce qu'il y a la transcendance et l'immanence, il y a cette horizontalité et cette verticalité qui viennent. Nous sommes dans l'horizontalité des choses, nous sommes dans le fini, et d'un seul coup, on est en relation avec l'infini, l'infiniment bon, l'infini dans toute sa réalité.
Juste pour revenir par rapport à notre thème de l'obscurantisme, vous avez, et l'un et l'autre, utilisé le terme racine, le terme source. Alors c'est vrai que, par exemple, dans le discours obscurantiste ou dans le discours intégriste, ou disons pur et dur, on va dire, ce sont aussi des termes comme l'origine, hein, une origine qui justement serait pure, pleine et entière. Ça, c'est des termes qui reviennent aussi. Donc on voit qu'au fond, la barrière est très poreuse entre les termes et qu'il s'agit peut-être ici de les préciser.
Oui.
Grand rabbin Marquette.
Je voudrais qu'au-delà de ce débat qui était très théorique, on revienne à des préoccupations pratiques sans oublier la théorie. Et j'anime au sein de la Fondation Racines et Sources un lieu de groupe, un groupe de recherche interreligieux où des rabbins, des théologiens protestants et catholiques, et des théologiens musulmans sont invités. Et j'ai une fois invité un théologien musulman réputé comme radical, voire même intégriste, et je me suis dit pourquoi ne pas discuter avec les intégristes. Et je lui ai posé la question, comment vois-tu le dialogue interreligieux ? Et en fin de compte, il a essayé de nous convertir. Il a utilisé une image que j'ai trouvée très parlante. Et l'image qu'il a utilisée était la suivante. Et vous, dans l'Occident, vous avez un discours trop mou. À force de relativisme, à force de tolérance, etc., vous n'attirez plus personne. Nous, musulmans, c'était sa vision à lui de l'islam, et ça existe dans les autres religions, c'est pas l'islam que je pointe ici, bien entendu. Et nous, nous avons des références claires et nous sommes le couteau qui tranche dans le beurre de l'Occident. Mmh. Et c'est pour cela que... Voilà, le ventre mou de l'Occident. Voilà. Mmh. Et je me suis dit, je l'ai écouté avec beaucoup d'attention, et je me suis dit, mais comment lutter contre justement cette forme d'obscurantisme-là ? Va-t-on opposer à cette référence claire, dure et tranchante, un discours sur la tolérance ? Ça ne marche pas. Parce que notre jeunesse, et nous tous, avons besoin de références. Mmh. Et la réponse, me semble-t-il, c'est revenir, justement, aux racines spirituelles de nos traditions. C'est-à-dire qu'un jeune, il a deux possibilités. Ou il a besoin de références claires mais superficielles, il écoutera ce genre de discours. Ou c'est quelqu'un de profond, où on peut éveiller sa profondeur, comme vous dites, ça fitera. Et il écoutera le Cheikh Ben Tounes. Des gens comme le Cheikh Ben Tounes qui vont éveiller la personne à sa dimension spirituelle. Et c'est en revenant à ses racines spirituelles, qui nous ouvre à l'universel, qu'on pourra lutter contre l'obscurantisme. Donc il ne s'agit pas de dire, d'opposer un relativisme laïque à des formes d'obscurantisme intégral et intégriste, mais il faut avant tout dire à ces jeunes, vous méritez mieux.
Oui, mais...
Vous méritez mieux.
Oui, mais c'est vrai que la question de l'utilisation de l'idée de la pureté, elle est au cœur du problème.
Absolument.
Comme le souligne Nicole.
Donc, elle est pure et dure, elle est pure et douce.
Exactement. Donc comment on fait pour finalement être au cœur de la tradition, être, dira-t-on, à l'origine, donc à la source vraie, pour justement éclairer, disons, utiliser cette source vraie sans être justement dans le discours « moi je suis plus vrai que vous, vu que je suis forcément à l'origine des choses ».
La source vraie.
Oui, ça c'est un débat très profond.
L'origine et l'authentique, parce que finalement les fondamentalismes s'appuient là-dessus, c'est-à-dire
c'est là justement où il faut éclairer l'obscurantisme. Et on l'éclaire par quoi l'obscurantisme ? C'est pas par des convictions. C'est pas en appelant celui qui a les oreilles bouchées à cette dimension spirituelle. Non, non. C'est en allant tout simplement à l'origine historique. Et c'est là où ça devient très intéressant. Parce qu'on éclaire, on n'éclaire pas l'histoire, pas les faits. Et c'est là où les choses prennent une autre tournure. Et c'est là où on s'aperçoit que l'obscurantisme se nourrit de quoi ?
D'une méconnaissance.
De l'inculture.
De l'ignorance.
De l'ignorance. Et d'une inversion de sens même. Aller plus loin, d'une inversion de sens même.
Alors,
cette
ignorance est assez bruyante aujourd'hui. On l'entend beaucoup plus que le savoir, entre guillemets, des modérés, disons pour résumer, que vous pouvez représenter et l'un et l'autre dans chacune de vos traditions. Donc, pourquoi ce dialogue, au fond, interreligieux, qui se poursuit depuis un certain temps, a finalement assez peu de visibilité, et pourquoi on ne vous entend pas sur des affaires très, très concrètes? Je pense à cette affaire par exemple de lapidation de cette femme en Iran. Il y a eu une pétition par exemple en France, lancée par Bernard-Henri Lévy, les intellectuels musulmans n'ont pas voulu la signer. Enfin bon, on voit qu'on est encore... C'est très difficile, Cheikh Ben Tounes.
Je crois que nous sommes dans un monde, dans un monde événementiel, et pas dans un monde réfléchi, et pas dans un monde qui cherche sa propre vérité. C'est un monde qui est bousculé par une accélération et une information, une surinformation. Et on n'a pas le temps de réfléchir. Ça, ce n'est pas que sur ces sujets-là. Sur tous les sujets, on ne va pas vers la profondeur. On surfe sur l'événementiel. Mmh. Et ça, c'est dangereux. Parce que aujourd'hui, je vous remercie de nous inviter pour qu'on puisse en discuter, avoir le temps au moins de dire, mais écoutez, prenons le temps au moins d'en discuter. Au lieu de on a l'impression que tout le monde sait tout sur tout et à tout moment. Mais non, il faut aller vers le fond des choses, la lapidation ou autre chose. C'est l'injustice. Vous savez, l'homme est injuste. Chacun de nous porte l'injustice sous son aisselle. Et c'est le pouvoir qu'on a, le pouvoir, soit le pouvoir politique, soit le pouvoir
de la parole,
qui va faire émerger cette injustice en nous.
Mais alors sur des cas comme ça, alors voilà, pourquoi on vous entend pas ?
Écoutez, c'est pas à moi, c'est pas au rabbin.
Je vous provoque.
Oui, non. c'est pas au rabbin. Voilà, je discutais avec ce monsieur. De nouveau, on était en train Paris-Genève-Lyon. Chacun va aller faire sa petite conférence dans son coin. Et puis, on se trouve dans le train avec justement cet imam réputé intégriste. Et puis, je lui ai dit, écoute, vous avez un problème avec la lapidation et vous avez eu souvent des propos durs et c'est dommage. Il me dit, mais je m'inspire de la Torah. Dans la Torah, on parle de lapidation. Je lui ai dit, mais tu as raison. Mais dans la Torah, ça fait déjà 2000 ans que ça n'existe plus. Et même quand la Torah parlait de lapidation, il y avait tellement de conditions juridiques pour l'appliquer que c'était pratiquement impossible. Il y a un texte du Talmud que Rabbi Akiva disait, un tribunal qui appliquait la peine de mort une fois tous les 70 ans est un tribunal d'assassins. Donc on a annulé et théoriquement et pratiquement la peine de mort bien avant l'Occident. Et donc nous juifs, on n'a pas, ce problème n'existe pas. Et donc la question, je suis désolé, la question se pose aux musulmans éclairés. Pourquoi les musulmans éclairés n'ont pas une voix plus forte dans ce domaine ? Et c'est à eux, et ça leur incombe, d'avoir une voix forte. Je crois que le cheikh Khaled Bentounes n'a pas besoin de faire ses preuves dans ce domaine. J'étais au congrès et je vois combien il parle avec courage des dérives de l'islam. Mais il n'y a pas assez de gens comme lui, il faut dire. Je crois que c'est...
Donc, le problème, vous avez pris l'exemple de la lapidation, mais quels sont les pays, par exemple, aujourd'hui, et depuis 15 siècles, qui pratiquent la lapidation ? Soyons réalistes. Si aujourd'hui, s'il y a certains pays qui veulent qu'on parle d'eux, et qui pratiquent cette OPA, pour qu'il soit dans l'actualité, c'est tout à fait différent. La lapidation n'est pratiquée ni dans le Maroc, ni dans l'Algérie, ni en Tunisie, ni en Libye, ni en Syrie, ni en Égypte. Dans aucun pays, dans les 52 pays arabo-musulmans, elle est pratiquée où ? Et depuis combien de temps ? Et même au temps du prophète, elle n'a réellement été jamais pratiquée.
Ça ne justifie pas qu'il ne faut pas réagir.
Oui,
Théologiquement, parce qu'on essayait aussi de voir dans les racines des traditions comment œuvrer à son dialogue avec sa tradition, c'est-à-dire avec les textes,
il n'y a
etc.
pas de texte sur lequel on peut s'appuyer. Il n'y a pas de texte dans le Coran sur la lapidation.
Alors c'est ce que vous appelez chez Khaled Bentounes, ce retour en fait à l'étude historique, mais à voir ce que les textes nous disent dans la vérité du texte.
Tout à fait, tout à fait. Et même ces textes, n'oubliez pas que la charia a été faite, c'est ce qu'on appelle la jurisprudence musulmane, a été faite mais 2 siècles après le prophète. C'est pas autant du prophète. Alors,
est-ce que cette position qui est la vôtre est tenable face au monde musulman ?
Mais bien sûr qu'elle est tenable si on revient.
Non mais vous savez que.
Mais quel monde musulman ? Vous parlez de.
Par exemple. Mais la controverse, par exemple, qui a eu lieu lors de la publication d'un de vos livres, cette controverse, elle a eu lieu, disons, en Algérie, où tout à coup on vous reproche de mettre dans votre livre des photos qui illustrent le prophète.
C'est pas des photos, hein, c'est des miniatures.
Non, des miniatures, disons, des reproductions.
Plusieurs siècles.
Très bien.
Pas seulement perses.
Très bien. Mais disons, les oulémas, là, tac, réagissent fort. Donc comment.
Mais regardez la sagesse du peuple. Regardez la sagesse de la communauté qui, elle, n'a pas condamné, qui, au contraire, a tout à fait adhéré en disant « Mais ça fait partie de notre patrimoine. Et le Sir Pentonas n'a fait que nous montrer, nous révéler notre propre patrimoine.
Mais c'est difficile de tenir ces positions.
Ben, c'est difficile, mais le débat est ouvert. Nous sommes dans un débat ouvert. C'est ce que nous, l'islam a toujours été. Parce qu'aujourd'hui, on parle de fatwa. On parle comme si il y avait un clergé dans l'islam et qui définissait les choses et qui disait
une autorité ça, c'est supérieure.
Bon. Et une autorité. Et il n'y en a pas dans l'islam. C'est une communauté de foi ouverte. Et vous avez une pluralité. C'est d'ailleurs l'islam sunnite est caractérisé par quoi? C'est islam, un islam de la jama'a. Al sunna ou jama'a. C'est la tradition, les gens de la tradition et de l'assemblée. Donc des avis différents. Qui dit assemblée dit avis différents.
Oui. Grand rabbin Marc-Raphaël Guedj, je vois que vous vouliez réagir.
Oui, oui, je vais lancer un pavé dans la mare. Et...
Alors, avec... petit pavé, parce que l'on a encore peu de minutes.
Oui. Et la position du cheikh Khaled Ben Tounes, on la connaît, elle est profonde, elle est belle. Et... Mais je crois qu'il y a tout de même un grand travail à faire, comme au sein du judaïsme d'ailleurs. En tout cas, je parle au sein de l'islam maintenant. J'ai assisté à plusieurs moments de ce congrès et c'était un très très beau congrès. Mais j'étais un petit peu attristé par le fait de m'apercevoir que très peu de musulmans genevois étaient présents. Ce qui montre encore cette séparation entre le soufisme d'une part, qui est la tradition mystique, et le sunnisme, ou certaines formes de sunnisme qui sont, ou de chiisme qui se retrouvent à Genève. Et je crois qu'il y a un grand travail intra-religieux à faire à ce niveau-là, comme au sein du judaïsme, je répète.
Donc inter-religieux et intra-religieux.
Je crois que tout le travail inter-religieux... D'abord, il faut faire un travail intra-religieux en amont du travail inter-religieux. Et je pense que l'inter-religieux, le but de l'inter-religieux, c'est de pouvoir revenir dans nos communautés et d'avoir le courage d'avoir des positions éclairées au sein de nos communautés pour que le dialogue intra-religieux soit possible.
Ça sera le dernier mot pour cette émission, bien sûr. Un grand travail à faire pour chacun à l'intérieur des religions et entre les différentes communautés. C'est ce qu'on retiendra en tout cas à ce stade de vos propos. Grand rabbin Marc-Raphaël Guedj, merci. Et cher Khaled Ben Tounes, merci d'être passé par Babylone pour éclairer cette question de l'obscurantisme et les confrontations actuelles qui en résultent. Alors, peut-être vous allez rester avec nous. L'entretien qui va suivre devrait vous intéresser. On va parler de l'obscurantisme et hors religion. Mais voici tout d'abord quelques notes aux lointaines résonances soufies remixées. C'est Kaboul Workshop. We'll be right back.
Ta sœur, c'est la femme.
Voilà, ben on continue à discuter là autour de la table. On l'entend tout à l'heure, donc on a parlé avec nos deux invités de l'obscurantisme religieux, mais parfois cet obscurantisme, il se niche là où on ne le cherche pas forcément, donc on va le débusquer, le traquer dans son acceptation la plus large. On pourrait citer par exemple le sociologue Pierre Bourdieu, il écrivait « L'obscurantisme est revenu, mais cette fois nous avons affaire à des gens qui se recommandent de la raison. Face à cela, on ne peut pas se taire. » C'est un conseil qu'a suivi en tout cas Erwan Sommerer. Il a coordonné avec Jean Zaganias un ouvrage paru chez L'Harmattan, « L'obscurantisme, formes anciennes et nouvelles d'une notion controversée ». Parmi les premières révélations du livre, la remise en cause de l'héritage des Lumières. Tiens donc, les Lumières seraient ainsi un lieu où se cacherait l'obscurantisme. La suite est développée par Erwan Sommerer qui répond aux questions de Philippe Zibung.
Oui, c'est vrai que c'est le constat un petit peu initial de cet ouvrage qui s'inspire, dans le cas présent, donc des travaux de ce penseur libéral qui est Isaiah Berlin et qui a lui-même travaillé sur l'obscurantisme des Lumières, en quelque sorte, ou disons qu'il s'était intéressé à tout un courant de pensée romantique, nationaliste, à partir du 18e, du 19e siècle, qui s'inscrit dans la contestation des Lumières. Alors, non pas les Lumières en tant qu'esprit critique, bien entendu, en tant que volonté d'autonomie, de la raison par rapport au dogmatisme, mais les Lumières en tant que tentation rationaliste, scientiste, et peut-être autant excluante que ce qu'on entend par obscurantisme. En général, Isaiah Berlin a montré que finalement, dans la résistance aux Lumières, il y avait aussi parfois une recherche de pluralisme, de diversité des cultures, de valorisation de l'altérité, et c'est pour ça qu'il a posé cette question, à quel moment les Lumières deviennent-elles elles-mêmes dogmatiques et obscurantistes, qui est lié à leur essence très, très ambiguë.
Oui, justement, alors à quel moment deviennent-elles obscurantistes? Quelques exemples, parce qu'il y a du mouvement anti-lumière, qui n'était pas des mouvements forcément réactionnaires au sens premier. Il n'y avait pas que les monarchistes ou l'Église catholique qui luttaient contre les Lumières. Il y avait un mouvement qu'on pourrait qualifier de moderne contre les Lumières.
Bon, ce qu'il appelle, lui, les anti-lumières, les contre-lumières, ne sont pas des mouvements hostiles à la modernité en tant que telle, c'est-à-dire des mouvements qui seraient partisans d'un retour au Moyen-Âge ou à des régimes, disons, épuisés par le mouvement de l'histoire. Les anti-lumières, ce sont simplement des penseurs comme Herder ou comme Demestre, mais très ambigus, ou Burke au moment de la Révolution française, et Berlin admettait leur ambiguïté, qui ont mis le doigt sur les excès de la raison, les excès de l'uniformisation rationaliste de toutes ces valeurs universalistes qui ont été mises en branle par la Révolution française. Berlin n'était pas nostalgique de périodes prémodernes. Il a voulu simplement montrer que chez les partisans des contre-lumières, ce qu'on peut appeler obscurantistes, il pouvait y avoir une porte de sortie hors des excès de la raison moderne. Excès qui ont conduit, c'était son propos à l'époque, qui ont conduit au totalitarisme de gauche comme de droite, appuyé sur la technique, sur la raison, sur le rationalisme et le scientisme. Il faut savoir que Berlin parle au XXe siècle en tant que contemporain des deux grands totalitarismes soviétiques et fascistes.
Mais on a l'air, Erwan Sommerer, de parler du passé, de l'histoire ancienne, donc l'époque de Herder, c'est révolution et restauration. Même quand on parle du totalitarisme au XXe siècle, on parle du passé. Mais finalement, aujourd'hui, ce débat, il garde quand même beaucoup d'actualité entre les tenants de valeurs universelles, qui doivent être respectés partout. Et puis, il y a ceux qui tiennent au relativisme culturel. L'homme avec un grand H n'existe pas. Il n'y a que des hommes, des cultures, des civilisations, des systèmes de valeurs. Ça garde quand même pas mal d'actualité.
Oui. C'est certainement un débat très, très contemporain. Et c'est pour ça aussi que nous avons voulu mener à bien cette étude et cet ouvrage. Même si, encore une fois, et c'est vrai qu'il est important à mon avis d'insister là-dessus, Isaiah Berlin n'est pas un penseur dont nous inspirons dans cet ouvrage, n'est pas un penseur relativiste. C'est quelqu'un qui, tout en valorisant la diversité des cultures, la diversité des modes de vie, de pensée, des valeurs dans les différentes sociétés humaines, n'a jamais voulu accepter l'idée que tout se vaudrait, que toutes les cultures seraient les mêmes, qu'elles se vaudraient toutes, qu'il n'y aurait pas de possibilité de les hiérarchiser. Il pensait qu'il y avait des valeurs universelles, qu'elles pouvaient être plus ou moins privilégiées, la liberté plus que l'égalité ou vice-versa dans certaines sociétés. Mais en aucun cas, il n'aurait accepté de mettre sur un pied d'égalité certaines cultures où la liberté et l'égalité seront appréciées et d'autres où elles seront traquées, éliminées sans merci dans certaines dictatures ou certains régimes. Donc il y a une différence, selon lui, entre valorisation anti-universaliste de la diversité et relativiste, qui pour lui était aussi un écueil à éviter.
Tout à l'heure, vous évoquiez Erwin Sommerer, vous évoquiez les dérives de la raison qui peuvent conduire vers l'obscurantisme. Alors là, il faut peut-être le décrire de façon plus précise. Comment la raison, qui est justement l'apologie de l'indépendance d'esprit, de l'autonomie, de la maturité, comment est-ce que une telle ouverture, des valeurs aussi positives peuvent conduire vers de l'obscurantisme, c'est-à-dire la fermeture, l'imposition d'une idée unique?
Bien, nous avons essayé de montrer dans ce livre que les Lumières et la raison, bien entendu, qui est au cœur de la pensée des Lumières, avaient indéniablement, dès l'origine, une puissance critique. L'autonomie de la volonté, la liberté d'expression, d'opinion, la capacité de la raison à démonter toutes les grandes idoles, les idéologies, les préjugés, etc. Simplement, ce qui est apparu dès, finalement, le 19e siècle, dès le positivisme, avec Saint-Simon, Auguste Comte, puis avec les différentes formes de totalitarisme, c'est que l'esprit critique pouvait facilement, pour peu qu'on ait hâte, qu'on soit trop hâtif dans la recherche de la vérité, pouvait se transformer en dogmatisme, c'est-à-dire en clôture de la pensée sur elle-même, en croyance en une vérité unique et en l'idée, je pense au marxisme, qui au départ est une idéologie contestataire, qui revendique plus de justice, d'égalité, etc.
Avec une grande force critique, une grande force d'analyse.
Oui, bien entendu, oui, bien entendu. Et l'écueil vient du fait que projeter la fin de l'histoire peut être un instrument critique et contestataire extrêmement juste et puissant. Prétendre avoir atteint la fin de l'histoire et avoir trouvé la société définitivement juste établie qui était, dans le cas présent, l'Union soviétique, peut par contre mener, bien entendu, au dogmatisme, au rejet de l'opposition, de l'altérité et à la clôture de la société sur elle-même. C'était Merleau-Ponty qui disait « la fin de l'histoire, c'est l'idéalisation de la mort », c'est-à-dire le moment où la société se fige et où la critique disparaît. Donc, au nom de la vérité, critiquer les dogmatismes est une chose, évidemment, qui est précieuse dans l'héritage des Lumières. Prétendre atteindre, peut-être un peu trop vite et dogmatiquement, la vérité peut mener aux écueils qu'Isaïen Berlin repérait dans cette même tradition.
Donc de la connaissance, on dérive assez vite vers une morale normative et de là, on dérive encore vers la morale contraignante.
Oui, sans doute. Celui qui au nom de la vérité, apporte une charge critique dans la société est toujours le bienvenu. Celui qui se précipite vers la vérité et qui prétend l'imposer de manière nationale ou universelle peut toujours être soupçonné de dogmatisme et de rigidité morale. Donc il y a toujours une tension. Tout cet ouvrage, je crois, nous avons voulu inscrire dans cette tension entre, au nom de la vérité et de la raison, critiquer les dogmatismes et en même temps être très réticent vis-à-vis de ceux qui prétendent atteindre la vérité au nom de la raison et ensuite l'imposer.
Donc Erwin Sommerer, ça ne se résume pas, cette lutte contre l'obscurantisme, à un combat entre la raison, contre les superstitions, contre les traditions. Mais alors à quoi il ressemblerait ce combat? Est-ce que vous êtes arrivé à esquisser quelques perspectives?
Alors nous avons aussi souhaité, bien entendu, nous avons problématisé la notion, nous avons essayé de l'historiciser, montrer son histoire intellectuelle, mais nous avons aussi essayé, bien entendu, de repérer ce que peuvent être les obscurantismes contemporains et la façon de réagir face à eux. Le racisme, l'antisémitisme, évidemment, ce n'est pas un scoop en soi, mais ont été étudiés comme possibles obscurantismes dans notre livre. Le sexisme, le paternalisme également font l'objet d'études relativement approfondie. C'est, je crois, la lutte contre l'obscurantisme, ce n'est pas le rejet uniforme de toute croyance, de toute religion. Ce n'est pas ça que nous avons voulu développer. C'est plutôt la vigilance continuelle, la préservation continuelle de l'esprit critique, y compris à l'intérieur des religions. Certains croyants peuvent rester très distanciés, très critiques vis-à-vis de leur propre foi, de leur propre croyance. Et donc, c'est cette idée de préservation, de vigilance par rapport à la préservation de la critique, quel que soit le degré de croyance, et nous sommes tous concernés, que ce soit idéologique, politique ou religieux, quel que soit le degré de croyance auquel on adhère.
Il y a un contributeur de votre ouvrage collectif, il s'appelle Christian Martinez, qui lui débusque de l'obscurantisme déguisé dans une combinaison high-tech et même de technicité, de haute technicité, de technicisme. Même il dit, il y a de l'obscurantisme dans cette hypermodernité. Quels sont les arguments qu'il développe?
Oui, c'est un texte que nous avons trouvé très, très intéressant. Cet auteur s'intéresse à ce qu'il appelle les boîtes noires, et donc ça vient très bien avec le thème de l'obscurantisme, c'est-à-dire tous ces objets, tous ces processus techniques, mais ça pourrait être étendu aussi aux processus sociaux, même si ce n'est pas l'objet de son texte, que nous acceptons comme des évidences, pour lesquelles il nous suffit d'appuyer sur un bouton, d'enclencher un système, un processus, ou que nous vivons sous forme de routine au quotidien, d'un point de vue social, si on veut étendre un peu le sujet, et que nous n'interrogeons pas en tant que tel. Et lui, qui s'intéresse à la science, à la technique, a vu dans ces boîtes noires un recul de l'idéal des Lumières qui est celui de la science, de la raison, mais qui à partir du moment où nous ne l'exerçons plus pour comprendre la technique et tous ces processus qui nous environnent, se retourne encore une fois contre cet idéal d'origine et devient une forme d'obscurantisme. La technique incontrôlée, incomprise, est vécue comme une évidence que nous ne maîtrisons plus.
Oui, et surtout quand elle est imposée, quand elle est présentée sans alternative possible, cette haute technicité.
Oui, ou disons, je dirais, imposé comme une évidence du progrès, peut-être, ou quelque chose que l'on n'a pas besoin d'interroger. Puisque
ou une nécessité
c'est
économique
dans le
sens
aussi. De l'histoire. Oui, aussi, effectivement. Je sais que cet auteur est très attaché aussi à questionner les pressions économiques, pressions financières qui peuvent s'attacher à la constitution de ces boîtes noires techniques que nous n'avons pas le temps non plus d'interroger, puisqu'elles se succèdent aussi à une vitesse, je me mets de son point de vue, à une vitesse effrénée.
Ces exigences sont très importantes, les exigences de Christian Martinez. Se contenter d'utiliser le réfrigérateur sans vraiment s'intéresser à savoir ce qu'est un réfrigérateur et quels sont ses principes de fonctionnement, c'est pour lui prêter le flanc à de l'obscurantisme, c'est se mettre dans une situation de faiblesse, de dépendance, de croyance même en une sorte de magie des appareils.
Oui, alors Christian Martinez est vraiment adossé dans son propos à un idéal de connaissance et du citoyen curieux et capable de questionner, ne serait-ce que sous forme vulgarisée, tous les instruments, tout l'environnement technique qui peut-être c'est celui de l'homme et de la femme moderne. Mais bon, c'est une exigence qu'on peut-être trouver un petit peu radicale, mais en tout cas on peut le considérer comme un point d'horizon qui doit nous amener nous-mêmes à questionner notre relation à notre environnement scientifique et technique. Alors, le thème du réfrigérateur peut être un petit peu amusant, mais si on réfléchit, je ne sais pas, aux OGM, à ce genre de choses, on voit tout de suite que, bon, le rôle du citoyen face à l'inconnu scientifique et technique est tout de suite plus épineux et plus d'actualité et brûlant, bien entendu. Donc, il faut voir ça aussi comme une façon de diriger une métaphore technique ou sociale sur tout ce que nous ne pensons pas, tout ce que nous prenons pour des évidences dans notre quotidien, et notamment sur le plan d'une science que nous ne maîtrisons pas.
Oui, alors, et votre livre, L'obscurantisme, formes anciennes et nouvelles d'une notion controversée, c'est son titre. Hein. C'est un ouvrage vraiment très multilatéral, avec de nombreuses contributions, je crois qu'il y en a une douzaine, quelque chose comme ça. Mm-hmm. Un de vos contributeurs pose aussi la question de la rhétorique, par exemple. C'est Loïc Nicolas, qui dit « La rhétorique, finalement, elle a été bannie, par exemple, des plans d'enseignement au XIXe siècle comme étant une sorte d'enfumage de l'esprit, une sorte de conspiration contre la véritable intelligence. » Elle dit justement que là, on a encore, dans cette attitude qui soulait effectivement très porteuse de lumière, on a une attitude obscurantiste. C'est vrai que la rhétorique est passée de mode.
Oui, c'est un texte très, très intéressant, qui est une étude historique fondamentalement sur l'université française du 19e siècle, qui montre bien la prise en main de l'université au 19e siècle par des enseignants positivistes, des universitaires positivistes, pour qui la vérité est adossée à un idéal de raison, de scientisme, et qui s'inscrivent dans la pensée de Comte Saint-Simon, pour laquelle les industriels et les scientifiques devraient pouvoir prendre le pouvoir, en quelque sorte. La rhétorique, face à ça, apparaît comme une sorte d'instrument un petit peu de la diversité, de la pluralité, être capable de défendre plusieurs thèses en même temps, en les mettant sur un pied d'égalité, tout et son contraire, être
donc
capable
de relativité.
De persuader. Oui, un petit peu, ça rappelle un peu les querelles entre les sophistes et Platon en d'autres temps, les sophistes qui ont fait l'objet de réhabilitation d'ailleurs dans la recherche en pensée politique ces dernières décennies, à savoir que celui qui prône l'art de persuader, l'art de la joute oratoire, peut avoir sa place dans le débat démocratique finalement, tout autant que celui qui armée d'une vérité universelle, va imposer cette vérité pour mettre fin à toutes les joutes. Hein, Hannah Arendt disait que la vérité est toujours despotique, autoritaire. La démocratie, c'est aussi le débat, c'est aussi la confrontation des opinions, bien entendu. Et dans ce cas, le sophiste ou le rhétoricien peuvent avoir leur place et enseigner peut-être l'art de persuader, l'art de convaincre les autres, chose qui est totalement rejetée par les positivistes français au XIXe siècle.
Erwan Sommerer, votre livre le dit, vous nous l'avez dit, lutter contre l'obscurantisme, ce n'est pas un combat de la raison contre les superstitions et les traditions. Mais vous voyez peut-être d'autres paramètres. Vous parlez de pluralité, par exemple. Ça, ce serait une garantie, toujours avoir cet esprit de pluralité actif en soi.
Oui, sans aucun
doute. Et vous opposez le monisme. Là, il faudrait peut-être le définir.
Oui. Alors, c'est le vocabulaire d'Isaiah Berlin, ce penseur libéral américain dont je parlais tout à l'heure, qui oppose donc monisme et pluralisme. Alors, le monisme est simplement l'uniformisation morale, politique de la société. Le monisme, c'est le propre des idées qui, de façon uniforme, prétendent avoir atteint la vérité, prétendent avoir trié les valeurs une fois pour toutes, et donc bâtir sur ces valeurs, sur ce tri, une société, le meilleur régime. Hein, le monisme, c'est le caractère univoque et uniformisant des valeurs. Le pluralisme étant la reconnaissance de la possibilité d'une diversité de cultures appuyée sur des valeurs différentes ou différemment associées. Et c'est effectivement la relation, la tension entre monisme et pluralisme qui est étudiée dans son œuvre. Il n'y a pas de pluralisme, il n'y a pas d'esprit critique sans pluralisme. Il ne peut plus y avoir de critique s'il n'y a plus de position extérieure à une vérité, à un régime ou à des évidences sociales ou idéologiques. Du coup, le pluralisme, qui encore une fois n'est pas peut-être pas simplement le relativisme, le pluralisme est une donnée indépassable, en tout cas, de la liberté critique telle qu'on la comprend aujourd'hui dans nos sociétés occidentales.
Donc le pluralisme, ce n'est pas non plus l'équivalent du libéralisme.
Chez Berlin, non, et sans doute non. Le pluralisme peut véhiculer certaines ambiguïtés. Le pluralisme peut comprendre des valeurs, des cultures que nous n'apprécions pas en tant que libéraux, des valeurs, des cultures dans lesquelles la liberté, par exemple, ne sera pas la priorité. Et la grande interrogation de Berlin, mais qui est une interrogation ouverte, c'est de savoir si, c'est ce que nous avons un peu développé dans le livre, à partir de quel moment, on peut être amené à tolérer en tant que libéraux et en tant que pluralistes, donc, des cultures qui nous gênent. Je ne dirais pas qui nous font horreur, mais qui peuvent nous gêner par leur façon différente de comprendre nos valeurs. Où se trouve la limite? C'est la question du libéral face au pluraliste et face à la pluralité des modes de vie et des cultures.
Donc il y a toujours un champ de tension entre intérêts divergents, entre convictions divergentes, et maintenir ces champs de tension ouverts, ne pas chercher à les résoudre vraiment, c'est un geste de salubrité sociale, de salubrité morale, on pourrait l'appeler comme ça?
Oui, je pense que c'est aussi le respect d'une pluralité qui, jusqu'à preuve du contraire, est intrinsèque au type de relations sociales développées dans nos sociétés. Précisément, c'est la barrière contre l'obscurantisme, hein, c'est la barrière contre cette tentation dogmatique que nous associons, dans une certaine mesure, à l'obscurantisme. Il s'agit non seulement de préserver l'esprit critique à partir de cette pluralité, mais surtout de réfléchir aux meilleures institutions possibles capables de préserver cet esprit critique, sachant que l'esprit critique n'est pas la dissolution, encore une fois, de toute vérité. C'est simplement l'acceptation de la diversité des propositions en matière de vérité. Il ne s'agit pas de bannir la recherche de la vérité, ce serait tomber dans l'écueil inverse, écueil dans lequel il n'y aurait plus de sens, plus de vérité, plus de croyance. Il s'agit au contraire de dire, voilà... Oui, bien entendu, nihilisme, sorte de postmodernisme un petit peu radical ou de relativisme exacerbé. Il s'agit de reconnaître un espace public dans lequel entrent en concurrence différentes options, différentes propositions de vérité, la pluralité de ces propositions évitant précisément à l'une d'elles de sombrer dans un dogmatisme monopoliste, disons. Et c'est le propre de nos sociétés libérales, démocratiques, de chercher cet équilibre entre propositions contradictoires, réformes qui viennent de différentes valeurs, différents partis partis politiques qui défendent chacun leur option, leur vérité à leur façon, s'assurer qu'ils puissent les défendre, qu'ils puissent à un moment donné les faire valoir, et en même temps s'assurer qu'il y ait toujours quelqu'un pour porter la contestation, pour les mettre en jugement sur la place publique.
Vous me permettez, Avan Sommer, d'exprimer une hypothèse. Ce livre autour de l'obscurantisme, son analyse sur toutes ses facettes, est-ce qu'il a émergé d'un agacement d'entendre ce terme, d'entendre les opposants, les adversaires se renvoyer ce terme à la figure?
Oui, un agacement, une insatisfaction aussi devant le traitement peu scientifique. Hein. Nous sommes des chercheurs, Jean Zaganiaris et moi-même, donc nous étions un petit peu, non pas surpris, mais agacés ou soucieux de développer un peu plus ce terme. C'est un terme comme les notions de populisme, de fanatisme, qui, en même temps qu'il décrit quelque chose, est péjoratif. Nous avons voulu essayer de démêler un peu cette pelote compliquée qu'est l'obscurantisme, qui est ces termes un peu doubles, à la fois péjoratifs, à la fois descriptifs. Et nous avons fait quelques recherches préalables. Nous sommes aperçus que dès qu'un livre avait en titre, finalement, le mot obscurantisme ou obscurantiste, il s'agissait de s'attaquer à l'islam, s'attaquer à la religion, s'attaquer à tel ou tel leader politique en vogue à tel moment. Ça ne nous semblait pas satisfaisant.
Un peu court.
De dire qu'il n'y a, voilà, un peu juste, voulions adosser ça à des définitions plus précises, plus scientifiques et plus historiques. Ce qui ne signifie pas, encore une fois, qu'il n'y ait pas d'obscurantisme et qu'on ne puisse pas. Certains livres qui dénoncent l'obscurantisme le font sans doute à raison, même si nous ne nous prononçons pas en tant que coordinateurs là-dessus. Nous avons laissé à certains de nos auteurs le soin de désigner eux-mêmes certains obscurantismes. Hein. Certains ont vu ça en Amérique latine, d'autres en Europe, d'autres dans l'histoire. Mais il s'agissait un petit peu d'aller plus loin que les invectives traditionnelles, trop intuitives à notre goût.
Voilà, c'était le philosophe Erwan Sommerer qui a donc coordonné avec Jean Zaganias l'obscurantisme, formes anciennes et nouvelles d'une notion controversée, un livre paru chez l'Harmattan.
Babylone avec le temps.
Merci à Philippe Zibung pour cet entretien, ainsi qu'à Jean-Marc Falcombello. Il recevait en première partie le Cheikh Ben Tounès et le grand rabbin Marc Raphaël Gedge. Jean-Daniel Motet était aux commandes à Lausanne, en régie à Genève, Louisa Nazarieff. Nicole Corpato, assistante de production, s'occupe de nos pages internet. Vous y retrouvez les infos sur nos émissions, nos invités. Et vous pouvez y écouter, bien sûr, et podcaster nos émissions. L'adresse babylone.rsr.ch. Babylone Production. David Collin et Nicole Duparc. Demain, nous aurons un train d'avance sur l'inauguration du nouveau tunnel ferroviaire du Gothard. Il sera inauguré en fin de semaine. Ça donnera lieu à une grande opération spéciale de la radio-télévision suisse, des tunnels et des hommes demain dans Babylone. Et puis dans une poignée de secondes, les infos suivies à l'Allegro Presto par l'humeur vagabonde. Vous écoutez Espace de 10h.